BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club Média RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, plus précisément du recrutement en particulier. Vous le savez, je le répète à chaque fois, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. C'est le cas tout au long de la semaine avec notre chronique compétences sur BFM Business, Radio et TV. Tous les jours, une entreprise différente qui vous propose des postes à pourvoir. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et le week-end, eh bien, on a un peu plus de temps. Et ça va être le cas dans quelques minutes avec le groupe Scalian, une très belle entreprise en croissance qui dispose de plus de 1000 postes à pourvoir. Vous allez découvrir l'entreprise grâce à sa DRH qui est déjà dans le studio, Caroline Nancy. Toujours dans cette première partie, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir un auteur, Stan Leloup. Voilà son livre. Je dis tout de suite que chez l'éditeur Erol, comme ça je ne l'aurais pas oublié. Alors lui, c'est simple, votre empire dans votre sac à dos. Comment créer votre emploi, gagner votre vie et même gagner très bien votre vie, c'est ce qu'il vous propose au travers de ce livre. Dans la seconde partie, on terminera, vous le savez, par la start-up qui cartonne et qui recrute, et ce sera Adrien Ménillot qui sera là, fondateur et PDG de Utip, comme vous voulez. Vous en saurez plus dans quelques minutes. 5 postes à pourvoir dans cette start-up qui est une plateforme qui est née en 2017 pour rendre justice aux créateurs de contenu sur Internet. Et dans la deuxième partie, pour notre décryptage RH, chose promise, chose due, en décembre, pendant toute cette difficulté que vous avez vécue avec les grèves, difficulté pour vous déplacer, eh bien on avait promis donc de faire une enquête sur le grand boom du télétravail. Ça va être le cas dans quelques minutes avec Julien Goirand qui, une fois par mois, vous savez, on vous présente une enquête exclusive côté RH avec BVA, notre partenaire. Eh bien, ce sera comment les Français jugent aujourd'hui le télétravail. Voilà un gros programme. Mais on commence à chaque fois, vous le savez, par les news RH avec Marie Valogne.
BFM Business, le club Média RH, les news RH.
Alors, ma chère Marie, c'est News RH avec une embellie sur le front du chômage pour 2019, c'est ça?
C'est ça, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a diminué de 3,3% l'année dernière en France. Cela représente près de 121 000 chômeurs en moins sur un an en catégorie A, d'après les chiffres de Pôle emploi, du jamais vu depuis 2007. Dans le détail, l'ensemble des catégories A, B et C baissent aussi de 3% sur un an. La fonction publique compte de plus en plus de femmes. C'est le constat que dresse un rapport annuel. 62% des agents publics étaient des femmes en 2017, contre 46% parmi les salariés du privé. Et c'est dans la fonction publique hospitalière que l'on trouve le plus de femmes, avec près de 8 agents sur 10. En revanche, elles sont minoritaires parmi les agents de catégorie A, catégorie la mieux rémunérée, et qui correspond notamment au poste de direction. La pépite française Mano Mano boucle un nouveau tour de table à 125 millions d'euros. Le site spécialiste du bricolage et du jardinage en ligne veut renforcer sa présence sur le marché européen. Mano Mano devient l'une des startups françaises ayant levé le plus de fonds ces dernières années, avec un total de 311 millions en 6 ans.
Alors voilà pour les news. Les news, ça continue toujours, vous le savez, avec le choix de Marie Valogne, le choix de Marie. Ce serait un joli titre de roman, de film de Marie Valogne sur les salons, non pas les festivités, mais les salons, les différents les événements liés à l'emploi, au RH, pour la semaine à venir. Alors, on commence avec un rendez-vous dans la capitale, c'est ça, Marie?
Et oui,
direction Paris.
Voilà, nous vous en avions parlé dans le Club Média RH, et la date approche, donc il faut noter. L'association Elle Bouge organise la 8e édition du Forum Réseau et Carrière au Féminin la semaine prochaine, jeudi 6 de 9h à 18h à Paris. Un forum de recrutement réservé aux jeunes femmes de filière scientifique et technique, et ça sera toute la journée au CESE. Direction Poitiers, les 14 et 15 février, le salon de l'apprentissage et de l'emploi se déroulera au Parc des Expositions. Un événement pour aider les jeunes dans leur choix de formation, mais aussi pour les adultes qui souhaitent se reconvertir. 1500 postes sont à pourvoir le premier jour. Enfin, si le métier de notaire vous intéresse, rendez-vous à Annecy le 18 février. Le job dating, le notariat recrute, se tiendra toute la matinée à la Chambre interdépartementale des notaires. L'occasion de vous mettre en relation avec les études notariales qui recrutent, renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller Pôle emploi.
Les notaires, ça cartonne. Avec l'immobilier qui explose, évidemment, il y a du travail. Voilà, merci Marie. Vous reviendrez le week-end prochain. Allez, c'est parti à la découverte de l'entreprise qui recrute, le groupe Scalian.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Merci Caroline Nancy, je suis ravi de vous revoir. Comment allez-vous d'abord ?
Très bien, merci Alexandre.
Merci de nous rejoindre. Alors vous êtes, vous, la DRH de ce beau groupe qui s'appelle le groupe Scalian, mm-hmm. qui dispose de plus de 1000 postes à pourvoir, c'est 1100, c'est ça ?
On est à 1100 pour cette année, oui, tout à
on
fait.
Va, on va y revenir. Mm. D'abord, partons à la découverte de votre entreprise, en France, hein, rien qu'en France, Scalian en France. Le groupe Scalian, date de création ?
89, donc 30 ans, on vient de fêter nos 30 ans cette année. Ouais.
Bon anniversaire.
Merci.
89, à ce jour, 3000 collaborateurs.
3000 collaborateurs, effectivement, basés dans 7 pays. Ouais. Alors nous sommes sur les métiers principalement de la transformation digitale, du numérique et de la performance des opérations, donc aussi bien dans les spécialités, notamment de la supply chain, des project management, mais aussi des systèmes critiques, des systèmes embarqués. Voilà, donc une aventure qui a démarré désormais il y a 30 ans, effectivement.
245 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Tout à fait.
Belle croissance, c'est ce que
belle croissance, ouais, ce qui fait un peu notre actualité aujourd'hui, parce que effectivement, depuis désormais 4 ans, 2015, une croissance externe qui s'inscrit à la fois à travers nos partenariats financiers, mais aussi avec la volonté de nous tous d'aller atteindre quasiment 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4 ans. Et il ne s'agit pas uniquement de grandir, mais surtout de se développer dans nos aires de spécialité et de s'internationaliser.
Alors, c'est croissance externe. Et l'événement, je disais que vous étiez aujourd'hui à la une, forte actualité, puisqu'on va commencer d'abord par le business, vous avez raison, c'est le maître mot. En janvier dernier, vous avez acquis une entreprise croissance externe, donc, qui augmente d'ailleurs les opportunités d'emploi. Mais parlons de cette acquisition.
Donc on est sur une participation majoritaire d'une entreprise espagnole, qui s'appelle Indizen, plutôt spécialisée, donc ça fait partie aussi de nos axes stratégiques, comme je vous l'expliquais. Nous avons vraiment un positionnement de spécialiste. Et une entreprise qui rassemble aujourd'hui 200 personnes, basées
à Madrid et à Malaga,
sur les métiers de la technologie dite avancée. Donc on est plutôt sur les métiers de l'intelligence artificielle, du big data, et qui va nous offrir l'opportunité et leur offrir, parce que c'est vraiment un partenariat, la possibilité de diversifier nos secteurs d'activité, nos positions, je dirais, à la fois géographiques, mais pas que, et puis d'offrir effectivement de nouvelles opportunités tant à nos propres salariés qu'à leurs salariés à travers les synergies qu'on va pouvoir créer, tout à fait.
Alors pour le groupe Scalian, donc deux news, comme dirait Marie, news RH, mais d'abord news business, on vient de l'entendre, par l'acquisition de cette entreprise espagnole, et puis News RH, ça veut dire plus d'opportunités, bien sûr, mais surtout, au-delà du recrutement, on va en parler, parce que je sais que les enjeux RH sont au centre de votre politique, et c'est pas un hasard si vous êtes avec nous aujourd'hui, bien sûr, pour évoquer tout ça. On va, bien sûr, d'abord présenter les recrutements, mais on va aller plus loin. D'abord, les postes à pourvoir. J'ai dit 1100, qui recherchez-vous ?
On cherche, alors, il faut savoir que Scalian, on est composé principalement d'ingénieurs. Donc, on a des postes en CDI, déjà.
C'est logique,
important.
D'ailleurs.
95% de nos activités sont, enfin, nos collaborateurs sont des ingénieurs. On est plutôt sur des ingénieurs expérimentés. Donc, de plus de 10 à 12 ans d'expérience. Donc, sachant qu'on est sur un positionnement d'experts, effectivement, on a des profils expérimentés. Très peu de jeunes diplômés, même si on en cherche aussi 5% aujourd'hui, nos effectifs sont jeunes diplômés. Et on est sur tant en France, bien sûr, et mais à l'international, qui est en fort développement aussi, de façon organique. On cherche des profils sur les aires d'expertise autour du project management, comme je vous le dis. On a des tensions aujourd'hui sur les métiers de la qualité logicielle. On a des recherches sur les profils d'ingénieurs développement, des data scientists, j'en passe, effectivement.
Et sur
les autres métiers qui sont les achats, les supply chain, voilà. Mais plutôt des profils expérimentés, spécialistes, parce que c'est vraiment notre cœur de positionnement et qu'on souhaite asseoir auprès de nos clients.
Alors, bien sûr qu'on va trouver le détail de ces postes à pourvoir à la fois sur mediarh.com, sur votre site. Voilà, sur Scalian, on peut postuler, bien sûr. Vous venez de dire des choses importantes. Je disais, on a eu l'occasion d'échanger ensemble sur vos enjeux RH, parce qu'il s'agit bien d'enjeux RH. Bon, on a bien noté, et j'insiste, vous avez raison, et vous-même vous l'avez fait, ce sont des postes a priori des hommes et des femmes expérimentés, parce qu'ils doivent être finalement efficaces et ils doivent être eux-mêmes rapidement opérationnels auprès de vos clients.
On est sur des sujets complexes aussi. C'est aussi lié à la qualité des missions que
oui,
nous avons,
c'est ça, en fait.
Et à la complexité des missions que nos clients nous confient. Donc, nos clients, on est dans l'univers autant de l'aéronautique,
oui,
du transport, de l'énergie. On consolide, je dirais, et on complète à travers justement le rapprochement avec InDesign dans la finance désormais, dans l'univers des télécoms. Et en fait, on est effectivement sur des profils plutôt expérimentés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils viennent nous rejoindre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce sont des profils qui viennent parfois de l'industrie eux-mêmes. C'est pas forcément d'entreprises,
oui,
je dirais, similaires aux nôtres, de conseils. Viennent de ces industriels et nous rejoignent pour une bonne chose, qui est principalement de diversifier ou asseoir leur expertise. Mmh. Donc, on leur doit aussi derrière de répondre à cette promesse.
Alors, justement,
pour pouvoir effectivement les projeter dans leur parcours.
Vous dites les enjeux RH, c'est au-delà du recrutement, la gestion des compétences. Parce qu'on l'a bien compris, finalement, il faut comprendre déjà de votre côté, auprès des clients, quels sont leurs besoins, pour pouvoir ensuite, dans la foulée, identifier les compétences en interne chez vous. Ces compétences qui vont être la bonne réponse à la demande de vos clients. C'est ça. D'où l'expérience, d'où la nécessité d'avoir des hommes et des femmes qui ont une compétence. Alors, au-delà du recrutement, on a envie de savoir ce que vous mettez en avant, justement. Comment se fait la gestion des compétences chez vous?
Donc sur ce sujet-là, on a toute une effectivement des managers de proximité. Alors, une des caractéristiques que l'on a notamment renforcées dans ces dernières années, c'est la connaissance de nos collaborateurs par des managers techniques.
Et vous avez mis en place dans votre actualité RH une plateforme compétences.
Tout à fait, voilà. Donc on est en cours de mise en place d'une plateforme de compétences. Le cœur de notre réacteur d'activité, c'est la compétence. C'est ce qu'on propose à nos clients.
Bien sûr.
Notre expérience, nos expertises. Et c'est aussi, comme je vous dis, la promesse qu'on fait à nos collaborateurs qui nous rejoignent de construire des parcours sur mesure, de faire en sorte à ce qu'on valorise
une mobilité interne.
Mobilité interne, mais pas forcément sous forme de poste, c'est souvent sous forme de mission, parce qu'ils nous rejoignent pour des missions.
Bien sûr.
Et donc valoriser leurs talents, les identifier le plus en amont possible. J'ai un certain nombre de managers qui me sollicitent, notamment dans le cadre des réponses à appel d'offres, qui me disent concrètement: Caroline, voilà comment on identifie tel et tel compétences techniques, environnement sectoriel, pour pouvoir répondre au mieux à mon client, et des salariés qui sont aussi en demande de valorisation de leurs compétences, qu'on aille les chercher, qu'on soit plus proactif. Donc cette plateforme, concrètement, ça va être principalement de renseigner son profil, de pouvoir donner la marge de manœuvre effectivement au manager d'aller la requêter, et de pouvoir aller au-devant du collaborateur, lui faire des propositions de mission, mais aussi des propositions de connexion avec d'autres experts, parce que ce sont des populations qui aiment être en connexion avec d'autres experts, donc leur permettre de se développer aussi à travers ce type d'approche de communauté d'expertise.
Alors Scalian, c'est une belle enseigne, c'est une belle marque, connue et reconnue dans votre univers, bien sûr, et j'imagine que ça doit participer à l'attractivité. C'est tout ce que vous mettez en place, tous ces enjeux RH, apporter la bonne réponse par rapport aux clients, mais c'est aussi apporter la bonne réponse pour les collaborateurs, pour ceux que vous souhaitez attirer, leur dire vous serez entre de bonnes mains et vous aurez de beaux projets. C'est ça l'idée, le beau parcours.
Le beau parcours, voilà, c'est leur dire aujourd'hui vous nous confiez, parce que ils nous confient.
Parce qu'ils sont sollicités.
Un projet, ils sont sur-sollicités. Alors en général, ils nous choisissent plutôt pour la typologie de mission qu'on peut leur proposer.
C'est ça,
ils nous choisissent sur le coup d'une rencontre, parce que ça joue beaucoup aussi avec l'intuition personnelle qu'on peut avoir avec le manager qu'on va rencontrer. On est plutôt sur des process très directs. Et donc, on leur doit effectivement derrière cette proposition, cette offre, cette proposition de valeur qui est de les positionner autant que faire se peut sur les missions qui pourraient effectivement leur permettre de se développer et de s'épanouir.
Encore une question, mais d'ordre très pratique, 1100 postes à pourvoir en 2020, un peu partout en France, c'est ça?
Partout en France, alors on est basé dans l'Ouest, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest, parce que c'est notre région d'origine,
oui.
Paris, bien entendu, et puis partout dans le monde, parce qu'en fait, on a un certain nombre
De France.
De base, voilà, j'ai des collaborateurs, là, pas plus tard que ce matin, j'ai encore reçu un suivi de dossier de mobilité pour aller vers le Canada. Donc on a beaucoup de demandes, notamment du Canada.
Ça fait rêver, attendez, voilà. Vous faites rêver. Moi, j'aimerais bien donc, si vous être embauché chez vous. Vous votre... dites, voilà, Canada, Japon, États-Unis.
Voilà, non, on est sur 6 pays. Et notre objectif, c'est de renforcer ces 6 pays, d'où le rapprochement avec InDesign en Espagne, parce qu'on était déjà installé en Espagne. On a des ouvertures, enfin pas d'ouverture, mais des renforcements de position, notamment en Europe, et notamment en ce moment des partenariats futurs qu'on étudie notamment en Allemagne et au UK, aussi en Belgique, et puis surtout Nord-Amérique, hein, Canada et USA.
Vous restez avec nous ?
Tout à fait.
C'était très clair et c'est passionnant. Merci. C'est passionnant l'idée de justement d'aller rechercher des hommes et des femmes de qualité, de très haut niveau, à qui vous allez offrir un beau projet. Vous restez avec nous. Alors là, vous avez un sac à dos, vous dites, ça vous arrive de vous balader dans un sac à dos ?
Je suis très digital. Alors je suis plutôt digital.
Voyez
que sac
lien.
À dos.
Ouais. Je voudrais vous présenter à vous et à vous tous une personnalité assez étonnante. Il s'appelle Stanislas Leloup. Le loup est dans la bergerie, le loup est avec nous. Stan Leloup, créateur de Marketing Mania. Comment développer un business tout seul, créer son emploi et pourquoi pas devenir riche. Eh bien, c'est ce qu'il propose au travers de ses livres passionnants et étonnants. Je vous propose de rencontrer Stan Leloup. C'est parti, la découverte de notre invité.
BFM Business, le club média RH, solutions RH.
Bonjour Stan Leloup.
Bonjour Alexandre.
Alors vous nous écoutiez sagement, je me tournais vers vous parfois. Vous faisiez...
Main pliée.
Vous avez les mains sur les... Vous savez, mettre les mains sur la table, hein, la télévision. Hein. Non mais vous faites comme vous voulez. Là vous êtes en position zen, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Alors vous avez à la fois un visage jeune, c'est étonnant d'avoir envie de décrire finalement, à 22 ans... Vous dites que vous avez découvert comment gagner de l'argent.
Exactement.
Alors ça, c'est quoi ? Vous êtes tombé dans un pot à miracles ?
Ben, j'ai entendu...
Et d'écrire ce livre. Alors, on va commencer par le début. Allez-y.
J'ai entendu parler de personnes qui gagnaient leur vie sur Internet et qui pouvaient vivre à l'étranger. Le premier que j'ai rencontré, c'était un blogueur américain qui habitait en Colombie. Et j'ai tout de suite été postulé pour aller travailler pour ce gars-là. Et j'ai pas été pris, malheureusement. À l'époque, mon anglais était pas assez bon.
Et vous êtes allé en Colombie ?
Je suis pas allé en Colombie, justement, on postulait à distance. Mais l'idée, c'était, venez travailler avec moi en Colombie. C'est un gars qui n'avait pas vraiment de raison particulière d'aller en Colombie pour son business. C'était un blogueur. Mais il avait la possibilité de le faire. Et il s'est dit, ben pourquoi pas ? Moi, je vais aller habiter au soleil, je vais aller habiter en Colombie. Moi, je me suis dit, je vais aller travailler pour lui, je vais le rejoindre. Et je n'ai pas été pris. Et par contre, moi, ça m'a ouvert la porte de, il y avait peut-être une possibilité, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc, je vais comprendre comment est-ce que lui, il en est arrivé là et si je pouvais pas faire la même chose.
Alors, vous avez à 22 ans, vous avez donc découvert comment gagner de l'argent sur Internet, quitter vos études dans une grande école. Quelle était l'école ?
ESSEC.
Dans une grande école de management et de commerce. Et vous êtes installé en Asie.
Je suis installé actuellement, en Thaïlande, à Bangkok.
Mais vous habitez toujours.
J'habite à Bangkok, ouais.
Vous êtes venu pour nous, quoi.
Je suis venu pour vous, exactement. J'ai pris l'avion ce matin, je repars ce soir.
Alors, aujourd'hui, vous êtes on m'a dit que vous étiez le formateur marketing le plus connu en France, avec, je cite, 300 000 abonnés et plus de 13 millions de vues sur YouTube. C'est bien ça ?
Exactement.
Formateur de quoi ?
Formateur en marketing. Donc, moi, sur ma chaîne, je parle de psychologie humaine. Je vais vous prendre des exemples. J'essaie de prendre des exemples petit peu inattendus. Cette année, j'ai pris le jeu vidéo Fortnite. Vous avez sans doute entendu parler. Quels sont les ressorts business derrière Fortnite. Je prends le groupe de rap PNL. J'essaie de me demander qu'est-ce qui fait que PNL fonctionne. Et j'essaie de prendre des grands youtubeurs. Cette année, j'ai une vidéo qui a très bien marché qui parle de youtubeurs comme Thibaut InShape. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça marche. Et en fait, moi, je vous parle du marketing pour vous dire le marketing, c'est pas un truc qui est sale, c'est pas un truc un peu bizarre, c'est pas une surcouche, mais c'est aussi comment est-ce que les gens font passer leur message. Et j'essaie de prendre ces exemples divers pour vous dire le marketing, c'est aussi le rap, c'est aussi le groupe de musique, c'est aussi comment est-ce qu'ils se positionnent et surtout l'image qu'ils peuvent renvoyer à aux gens qui les suivent. Comment est-ce que suivre PNL dit quelque chose sur qui vous êtes en tant que fan et pourquoi est-ce que les gens ont envie de suivre le groupe de rap PNL. Et donc, en utilisant tout ça, on apprend de différents domaines, on prend des techniques qui peuvent nous servir. Parce que si vous, la seule chose que vous faites en marketing, c'est regarder ce que font les concurrents, vous faites la même chose et c'est pas si intéressant que ça. Si vous allez voir ce que fait le jeu vidéo Fortnite et que vous dites, moi je suis youtubeur aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en apprendre? C'est là où vous allez avoir des idées qui sont un petit peu originales.
Comment vendre le sens de la vie? Votre sens de la vie?
Exactement.
C'est un peu ça l'idée.
Exactement. Et si vous pensez, par exemple...
C'est ce que vous proposez.
Oui, c'est ça. Et... c'est pas ce que je propose uniquement, mais disons que c'est une partie et c'est une chose que vous pouvez vendre. C'est-à-dire que si vous pouvez donner aux gens un sens de structure, un exemple étrange là-dessus, c'est par exemple...
Oui, soyez concret, dites-moi.
Le jeu vidéo Fortnite, par exemple. Le jeu vidéo Fortnite, il va structurer...
Tous les gamins sont comme des foulés.
Exactement. Il va structurer tout un tas de tactiques pour vous donner un sens de progression. Il va vous donner l'importance de j'avance, je mets de l'effort là-dedans, et puis c'est pas du temps qui est perdu, c'est du temps qui construit vers quelque chose. Et donc, ils vous construisent quelque chose à partir de numérique complètement, il n'y a rien derrière. Mais pour les gens, ils y trouvent du sens, ils y trouvent l'idée que j'ai progressé, je me suis amélioré, ça veut dire quelque chose. Et si les gens y trouvent du sens, ils y trouvent une satisfaction. Et beaucoup de ces jeux vidéo sont là pour vous donner un sens de progression, vous passez au niveau 1, vous passez au niveau 2, vous débloquez un nouvel élément, et... Ça, c'est aussi vendre du sens de la vie. Ça peut paraître idiot vu de l'extérieur, mais si les gens y trouvent leur compte, le jeu vidéo Fortnite vous rend aussi un groupe social. C'est aussi un moyen pour les gamins de se retrouver, de passer du temps avec leurs amis.
Exactement.
De
enfin, des amis qui ne sont pas forcément leurs amis, d'ailleurs. Ouais. Ce sont des amis inconnus.
Mais après tout, vous discutez avec quelqu'un, vous passez du temps, que vous soyez là à serrer des mains ou que vous soyez en train de jouer à Fortnite, c'est un contact qui est humain. Et moi, j'ai grandi aussi dans cette période où on avait des jeux vidéo et on passait du temps sur Internet. Et j'avais des grandes amitiés à l'époque où j'étais au collège, de gens que je n'ai jamais rencontrés, simplement parce qu'on échangeait sur des intérêts qui étaient communs.
Alors, vous habitez, vous dites aujourd'hui, en Thaïlande, c'est ça ?
Exactement.
Vous êtes installé et vous avez élargi votre champ d'action et vous avez une équipe. Vous n'êtes pas tout seul.
Effectivement.
En Thaïlande ou en France ?
Donc, mon équipe est distribuée. Donc, on va parler plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Je dis « on », je ne serai pas là, mais on parlera de travail à distance.
Tout à
fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en
place.
Parce que moi, j'ai eu l'occasion, grâce à mes revenus sur Internet, de me dire bah, « Tiens, où est-ce que je peux aller ?» Et j'ai envie d'aller en Asie. C'était ce que j'avais envie de faire. Et c'était
grâce à vos revenus, je n'ai pas entendu.
Mes revenus sur Internet, ça me permettait de me dire bah, « Je ne suis pas bloqué à un endroit. » Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que votre source de revenus et votre endroit où vous avez envie d'habiter, c'est deux décisions qui sont différentes. Vous pouvez aller habiter, si vous avez envie, dans un petit village en France, ou vous pouvez habiter en Colombie, vous pouvez habiter à Bangkok.
En Thaïlande, c'est votre
cas. Équivalent.
Ouais.
Exactement. Et donc, moi, je voulais aussi donner cette possibilité à mon équipe. La question, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour avoir une équipe qui est à la fois soudée, qui a à la fois une bonne communication, qui a à la fois un vrai esprit d'équipe, et en même temps, pas être tous ensemble. Donc, on essaye de faire un modèle hybride. Ce que j'ai proposé aux gens, c'est de dire, venez avec moi à Bangkok, vous êtes coincés pendant 6 mois. Si au bout de 6 mois, Bangkok, ça vous plaît plus, vous pouvez partir. Et ce que moi, je voulais faire, c'était de me dire, si moi, j'ai envie d'habiter en Thaïlande parce que ça me plaît, j'ai pas envie de forcer mon équipe à y habiter, et j'ai pas envie, moi, de me forcer à habiter autre part juste pour pouvoir mieux recruter.
Vous dites que dans ce livre, vous révélez les secrets de la psychologie humaine qui permettent à chacun de construire son business en ligne.
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Donc en fait, ça veut dire que tout le monde peut y arriver.
Tout le monde, en tout cas, peut y réfléchir.
Parce que c'est ce que vous proposez.
Oui. Après, la vérité, c'est que beaucoup de gens ont envie de le faire.
Même sans idée de génie, même sans avoir beaucoup d'argent au départ, etc.
Clairement sans avoir d'argent au départ, parce que
essentiellement, c'est votre cas.
Ce qui est exactement mon cas, c'est-à-dire que moi, j'ai démarré sur YouTube en me filmant avec un téléphone chinois à 200 euros, et en montant mes vidéos tout seul, c'est pas...
Aujourd'hui d'ailleurs, vous en êtes où ? Votre business, sans être indiscret.
Vous demandez en termes de...
Ben, votre business aujourd'hui, c'est quoi exactement alors ? Parce que c'est nouveau, donc j'essaie de comprendre.
Donc mon business, moi aujourd'hui, je vends des formations. J'explique aux gens, vous voulez apprendre le marketing, vous voulez apprendre telle compétence, moi je vous forme sur telle compétence.
Donc par exemple, et vous le faites à distance, donc en utilisant Internet.
On fait à distance, on a de plus en plus, et c'est nouveau, des demandes de gens qui veulent le faire en présentiel, puisqu'à l'origine, moi mon client c'était plutôt des petits entrepreneurs individuels, on le fait à distance, on est un système de vidéo, d'accompagnement, on répond aux questions des gens, donc j'ai une équipe qui est distribuée. On n'a pas besoin vraiment de voir les gens viennent nous voir pour des questions sur la création de contenu, sur YouTube, sur le copywriting, sur l'email marketing. Ils n'ont pas besoin qu'on soit là sur le terrain pour le faire, donc on peut le faire un petit peu de n'importe où. Ça nous permet aussi de toucher des gens à travers toute la francophonie, essentiellement à travers toute la France, sans avoir besoin de se déplacer. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir une chaîne YouTube, c'est essentiellement, moi ça me permet de parler à des centaines de milliers de personnes depuis quasiment chez moi.
Est-ce qu'aujourd'hui vous gagnez bien votre vie ?
Oui.
Et votre business, au-delà de vous-même, est-ce que votre business crée du chiffre d'affaires ?
Du chiffre d'affaires, effectivement.
Et vous faites quel chiffre d'affaires ? Vous le donnez ou pas ?
On le donne pas, parce que moi je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je vais vous dire pourquoi, Alexandre.
C'est parce
que je suis dans un domaine où il y a beaucoup de gens qui vous disent faites comme moi et vous allez gagner des millions. Et moi j'ai aussi conscience que ça fait 7 ans que je le fais. On génère des chiffres qui sont confortables, on génère des marges qui sont énormes, parce que évidemment vous générez des marges, vous avez des milliers de clients, vous avez 5 employés, vous avez...
Vous voulez pas donner de chiffres, je le sais.
On ne veut pas donner de chiffres parce que...
C'est de quel ordre ? Allez.
C'est un peu moins d'1 million d'euros.
D'accord, mais c'est quelque chose, oui, comme vous dites, 5 collaborateurs, c'est quelque chose qui est rentable et qui tourne.
C'est quelque chose qui est rentable, on a des bonnes marges, ça fonctionne bien. Voilà, maintenant je ne suis pas en train de dire aux gens, achetez mon livre et vous allez faire des centaines de milliers d'euros l'année prochaine. Et c'est ça que moi qui me met mal à l'aise, c'est l'idée de me dire...
Mais vous dites quand même, je le lis, gagnez, c'est écrit, gagnez votre liberté en 5 étapes, transformez votre premier business en petit empire qui va tourner tout seul 24 heures sur 24. Ouais. C'est quand même une promesse.
C'est une vraie promesse, mais c'est aussi une promesse qui est tenable. C'est une promesse qui est tenable parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose qui fonctionne. La question, c'est comment est-ce que vous bossez sur la technologie. Pour moi, par exemple, ce qui me permet de toucher autant de monde, c'est évidemment la technologie sur YouTube et puis l'email.
Alors, vous restez avec nous. Je suis ravi de vous rencontrer. Et, je rappelle que vous arrivez tout juste de Thaïlande. On va se retrouver dans quelques minutes avec d'autres invités. On va pouvoir enchaîner. On demandera à chacun ce qu'il en pense. Allez, c'est la suite du club. La deuxième demi-heure arrive.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Si vous nous rejoignez pour cette deuxième demi-heure, je vous rappelle que nos deux invités de la première sont encore là, à la fois Caroline Nancy, rebonjour.
Bonjour.
DRH de ce beau groupe, le groupe Scalian, 3000 collaborateurs, 245 millions d'euros de chiffre d'affaires, date de création 1989. Belle croissance, gros enjeux de développement avec l'acquisition en janvier d'une société en Espagne, à la fois présente à Madrid et Malaga, et puis les enjeux RH que vous avez décrits. Et qu'on a bien compris, parce que la compétence, vous recherchez des hommes et des femmes, surtout des ingénieurs, des hommes et des femmes compétents. On est d'accord, c'est le maître mot.
Tout à fait, expert,
pour pouvoir être efficace dans les entreprises clients. Avec nous également, depuis la première partie, eh bien, la clé d'un business en ligne à succès, c'est ce jeune auteur qui, après avoir fait l'ESSEC à 22 ans, a décidé de se lancer dans son empire, dans un sac à dos, c'est ce qu'il a créé. Il est installé à Bangkok. Rebonjour.
Bonjour Alexandre.
Et il est gentil de venir, il a fait un voyage éclair pour venir vers nous, nous parler de son livre qui vient de sortir chez Erol, et qui donne envie, en tout cas, effectivement, de créer. On est dans un univers tout nouveau. Vous avez tout compris ? Moi, j'ai pas tout compris. Non, je plaisante. Mais c'est un autre univers, celui d'un homme indépendant et qui a trouvé sa voie. Voilà, et dans la deuxième partie, dans quelques minutes, enquête exclusive mensuelle avec BVA, notre partenaire. Chose promise, chose due, on l'avait dit en décembre, avec les différentes grèves qui bloquaient tout le monde, le grand boom du télétravail. On avait demandé, bonjour Julien Gouarant.
Bonjour Alexandre.
De BVA, on avait demandé à Julien Gouarant, faites-nous donc une enquête sur le boom du télétravail. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il s'est passé quelque chose dans ce domaine-là ? Vous allez le savoir dans quelques minutes. Enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute, nous sommes ravis de recevoir le fondateur de Utip. On dit Utip, c'est ça ?
Utip, vous l'avez très bien prononcé.
Parfait, j'ai pas fait d'erreur. Utip, c'est Adrien Méniot, fondateur de Utip, qui lui dispose de 5 postes à pourvoir. Ça compte, 5 postes dans une start-up. Et il y a peut-être une opportunité pour vous. Voilà, c'est parti. Décryptage RH avec Julien Gouarant, BVA.
BFM Business, le club média RH. Décryptage RH.
Mon cher Julien, alors chacun peut réagir dans le studio, nos invités, je leur dis, vous pouvez intervenir quand vous voulez et interpeller Julien Gouarant, qui a pris Camille son armure.
Ça y est, je suis prêt.
Alors mon cher Julien, vous avez donc accepté d'aller au feu, d'enquêter. Je rappelle que BVA, c'est une entreprise sérieuse, un des grands de l'enquête d'opinion, une enquête auprès d'un panel représentatif.
De salariés.
Deux salariés, et on va voir défiler leurs réponses. Vous les avez interpellés, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Première question, les salariés veulent-ils en bénéficier du télétravail ? Vous leur avez demandé à ce panel. Voici la réponse sous forme de, comme on dit, de camembert. Première réponse, voulez-vous en bénéficier ? Eh bien, ils sont...
37% de ceux qui n'en bénéficient pas aujourd'hui veulent en bénéficier, sachant qu'ils sont à peu près 22% aujourd'hui à faire de manière régulière ou occasionnelle du télétravail. Oui. Si on parle de boom, il y a 15 ans, au moment où boom numérique s'est réellement amorcé dans le milieu professionnel, on était plus autour de 5 à 7%. Aujourd'hui, on est à 22% qui sont soit des occasionnels, soit qui le font de façon régulière. 37% de ceux qui restent souhaiteraient bénéficier. Veut dire aussi qu'il y a quand même à peu près 50% des salariés qui soit sont dans des situations qui ne le permettent pas, soit qui ne le souhaitent pas. pour diverses raisons et qui ne souhaitent pas aujourd'hui rentrer dans cette possibilité offerte, que ce soit de manière occasionnelle ou régulière.
Alors, deuxième question que vous leur avez posée, le travail est-il une bonne chose, selon vous, toujours pareil, pour les salariés, selon vous, et pour les entreprises, quelle est la réponse ?
Alors là, c'est quasi unanime, c'est-à-dire que à la fois pour les salariés et pour les entreprises, les salariés nous disent que c'est une bonne chose. Une bonne chose, 86%, 84% pour les entreprises. Ce qui signifie que les gens qui nous disent non, je ne veux pas ou je ne peux pas faire du télétravail, ont une posture qui est une posture extrêmement bienveillante par rapport au travail. On a des collègues qui télétravaillent, c'est pas nécessairement perçu comme une difficulté, une démission ou une difficulté d'organisation supplémentaire.
Alors, troisième question, puis on va faire intervenir nos amis en cours de route. Le télétravail, quelles sont, selon vous, question posée aux salariés, les avantages
du télétravail.
Du télétravail. Alors, ce qui arrive en tête, c'est logique d'ailleurs, je vous laisse en parler.
C'est une organisation du travail plus souple. Ben vous voilà. Avez 89% qui nous disent organisation du travail plus souple. Chez les salariés, c'est 1 sur 2 qui est tout à fait d'accord avec cette idée. Donc véritablement, on est là dans une sorte de partage. La maturité de cette question a énormément progressé et ça touche à la fois les salariés en général, mais aussi, ce qui est quand même important sur le sujet, les managers, dont on a pu à un moment craindre des formes de résistance par rapport à ça. Comment j'organise mes équipes, est-ce qu'ils bossent vraiment quand ils ne sont pas là, toutes ces questions avec des suspicions potentielles sont des choses sur lesquelles aujourd'hui, à 89%, on peut dire que c'est assez largement levé.
Alors, réaction dans le public, on dit, on a la chance d'avoir la DRH, une grande DRH, groupe Scalian. Mm-hmm. Ce que vous entendez déjà pour l'instant, ça vous confirme ce que...
Oui, alors dans les réalités, c'est intéressant parce qu'effectivement, on met rarement l'accent sur la difficulté d'exercer le télétravail. Donc nous, on est parfois dans cette situation. Aujourd'hui, on a 200 télétravailleurs, on est en phase pilote. On va négocier avec nos organisations syndicales un accord télétravail. Et donc, on a fait une expérimentation de 100, je dirais, réguliers. Mmh. Après, on a tout un tas de télétravailleurs occasionnels. Cette recherche de flexibilité, oui. D'autant plus que, par exemple, nous, sur les premiers profils à qui on a proposé le télétravail sont les auditeurs, par exemple. Ils sont très mobiles géographiquement. Ils vont plutôt à l'international. Oui. Et la contrepartie, justement, de cette mobilité, pour nous, c'était important de leur proposer, c'était de pouvoir faire leur rapport, se concentrer sur leurs tâches. Post-audit, ils ont des déplacements à l'étranger conséquent et d'être aussi de gagner justement sur cette flexibilité d'organisation. Alors flexibilité d'organisation, on cherche pas nous à gagner des mètres carrés, très honnêtement, parce que nos collaborateurs sont plutôt en général chez les clients, mais en tout cas ça nous donne cette possibilité effectivement de flexibilité.
Alors on continue sur cette enquête, vous vouliez intervenir, je me tourne vers vous.
Je pense que comme vous dites, il y a une vraie personnalité qui va mieux fonctionner à distance. Et il y a des gens qui vont devenir fous de rester tout seul chez eux toute la journée et qui ont besoin de cette interaction. Et il y a des gens, et moi j'en fais partie, où je suis très content de faire mes vidéos, je suis très content d'écrire, de passer des heures comme ça où personne me dérange. Et il y a une vraie personnalité. Et moi, c'est quelque chose que je cherche quand on recrute des gens. Je me demande, est-ce que cette personne va tourner en rond tout seul à la maison et va se dire,
c'est marrant,
mais au bout d'un moment, voilà, j'ai besoin d'avoir des collègues, de l'énergie. Donc, il y a un type de personnalité qui, à mon avis, souffrait particulièrement en open space, par exemple, et maintenant va particulièrement bien se prendre à ce type d'arrangement.
Alors, on continue l'enquête avec vous, Julien Goharan. Télétravail, les avantages pour l'employeur.
Juste pour le salarié, en deux mots, il y a aussi très fortement le stress et la fatigue qui diminuent.
Et ça, c'est selon les salariés.
Voilà, c'est toujours selon les salariés. Hein. Les avantages du télétravail pour salariés, c'est une baisse du stress et de la fatigue, 87%. C'est une augmentation de l'autonomie et la responsabilité, 85%. Ce qui arrive en dernier à 83%, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Il faut savoir que cette question du télétravail n'est pas toujours parfaitement favorable à l'équilibre vie professionnelle, vie privée, même si c'est largement l'idée, largement partagée, parfois ça entraîne des difficultés d'organisation ou alors des continuités du travail qui peuvent être négatives.
Voilà, avec pas forcément la sagesse ou la connaissance du bon rythme de travail en travaillant chez soi, les pieds dans les pantoufles. C'est une caricature. Alors maintenant pour les employeurs.
Voilà, alors ce que les salariés ont le sentiment que l'avantage qu'en tire l'employeur, c'est d'abord la diminution de l'absentéisme. 89%. Et d'ailleurs, quand on fait des baromètres sur l'absentéisme, on s'aperçoit que les gens en télétravail ont un absentéisme quasiment deux fois plus faible que les gens qui ne sont pas en télétravail. Ouais. Donc c'est une réalité.
C'est étonnant, ça.
La réduction
c'est étonnant pour le
des coûts d'organisation.
Qui n'est pas dans l'entreprise, l'absentéisme.
Oui, en fait, ça réduit. C'est des gens qui éventuellement auraient besoin d'un arrêt de travail ou auraient besoin de s'absenter règlent ça d'une manière un petit peu différente. Ils restent chez eux, ils télétravaillent et dès lors, ils arrivent à avoir une continuité dans leur activité.
Donc vous dites en premier diminution de l'absentéisme, réduction des coûts de l'organisation.
Augmentation de la productivité, 77%. Sauvegarde des compétences clés, 75%. C'est beaucoup plus faible par rapport à l'appréciation qu'on a globalement du télétravail, ce 75%. Qui signifie que la question des compétences clés, de leur sauvegarde et peut-être de leur partage, pose parfois question dans les situations où ce télétravail ferait une atomisation complète des équipes et permettrait pas un partage de compétences qui soient un partage idéal.
Alors on passe à la question suivante. Vous avez posé la question aux Français, on peut dire ça, aux Français.
Aux salariés.
Aux salariés, allez. L'avez-vous expérimenté ?
Ce télétravail ?
Le télétravail. Et là, je m'attendais à plus, d'une certaine manière.
Oui, alors, c'est...
On va voir le résultat.
Non, on va voir le résultat en deux temps. On leur a demandé, est-ce que vous faites du télétravail ? Et d'une part, est-ce que avec l'impact des grèves, vous avez fait plus ou moins de télétravail.
On fait un peu de suspense.
Qui était un peu la question qu'on se posait.
Au mois de décembre.
Alors, je ne suis pas sûr que les résultats vous satisfassent totalement.
Mais
ce qui est certain, c'est que là, on a 22% qui nous disent qu'ils pratiquent le télétravail. C'est à peu près ce qu'on constate dans toutes les études sur le sujet. Quand on est sur des entreprises plus grandes, il peut y en avoir un peu plus en proportion.
En tout cas, on est à 22%.
On est à 22%, 9 régulièrement et 13 de manière occasionnelle. C'est beaucoup plus des cadres, 51%. C'est beaucoup plus des 18-34 ans, ce qui montre bien que les personnes qui arrivent dans l'emploi parfois mettent cette question à l'ordre du jour dès leur arrivée et en bénéficient ou le pratiquent un petit peu plus. C'est aussi sensiblement plus le cas en Île-de-France, puisque c'est 34%, là où on a 22% au global.
Alors, la question fatidique, l'avant-dernière presque, qu'on vous demandait de traiter, c'est est-ce que les grèves ont eu un effet fort, marquant, parce que c'est un marqueur pour l'augmentation du télétravail.
Effectivement, on a demandé à cette même population, qui nous disait 22% qui a pratiqué le télétravail, 9% régulièrement, 13% de manière occasionnelle, si à l'occasion des grèves de ces dernières semaines, ils avaient travaillé à distance ou pas.
Réponse.
La réponse au global, c'est 19% qui nous disent oui. Alors qu'on en a 22% qui le pratiquent
globalement. C'est un peu incohérent. Quoi.
Avec une augmentation des réguliers, qui sont passés de 9 à 11%, mais une diminution des occasionnels. C'est-à-dire des gens qui, dans leur activité professionnelle, parfois ont pu faire ou font du télétravail. Sur cette période-là, ce n'est pas le télétravail qui leur a permis de gérer les difficultés. Ce qu'on constate, d'une certaine manière, c'est qu'il y a une augmentation des télétravailleurs réguliers, donc qui ont une vraie pratique de ça. Mais dans le reste de la population des télétravailleurs et des gens qui ne télétravaillent pas, ça n'a quasiment pas eu d'impact, voire même un impact d'une diminution, ou en tout cas d'un glissement des occasionnels vers les réguliers.
Et vous avez d'ailleurs, et c'est le dernier, comme on dit camembert, dans le jargon de présentation, vous avez eu la bonne idée de leur poser la question sur leur ressenti aux salariés.
Oui,
chez absolument. Les salariés, le télétravail pendant les grèves, leur ressenti.
Oui, cette expérience, est-ce qu'elle a été positive ou négative? Voilà. Très largement positive. 69% nous disent que c'est positif et ça leur a donné davantage envie de recourir au télétravail.
Oui, parce que le négatif, c'est 12% seulement.
Voilà, le négatif est très marginal, ni l'un ni l'autre 19%. En tout cas, une expérience qui est une expérience au global très positive, qui est une expérience sur laquelle la maturité des salariés par rapport à l'acceptabilité du télétravail travail est de plus en plus forte, elle est quasi unanime aujourd'hui, mais si on s'intéresse plus particulièrement aux grèves, ces grèves, c'est pas ça qui, d'une certaine façon, le télétravail n'est pas un casseur de grève, entre guillemets, le télétravail, il permet d'avoir une meilleure continuité du travail en situation de grève, ça c'est certain, c'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas pu venir continuer à travailler parce qu'ils sont chez eux, ça c'est une vraie facilitation, mais c'est pas ça qui conduit les gens vers le télétravail, ces atouts sont vraiment ailleurs.
Caroline Nancy, ben, tout cela, ça va dans le sens dont on parlait tout à l'heure. Mais dans vos métiers, par exemple,
alors nous, on a des compétences
de très haut niveau. Parce que...
ouais, alors nous, on a quand même quelques contraintes hein, qui ne sont pas tellement liées aux personnalités, mais même si on fait un diagnostic pour savoir si je suis dans le profil du télétravailleur. Oui, oui. Mais on a des contraintes qui sont effectivement liées à nos métiers, notamment parce qu'en en fait, ils ont pour la plupart, pour certains, des outils clients avec eux et qu'effectivement, ils ne peuvent pas passer certaines... avoir accès à distance à travers l'outil client, notamment effectivement à l'environnement client.
Et puis il faut le contact
donc, c'est des contraintes
client
techniques.
En même temps.
Et en plus,
les clients
nos clients
les avoir,
effectivement, nous demandent effectivement, d'être en organisation in situ chez eux.
Bien
donc c'est ce qui fait la limite pour nous, en tout cas moi j'adorerais pouvoir le proposer à tout le monde, mais malheureusement on a des limites opérationnelles et techniques.
Bien sûr.
Voilà, mais c'est vrai que c'est... Alors nous on a constaté par contre une hausse, moi j'ai constaté une hausse pendant les grèves, notamment de nos collaborateurs plus administratifs et sédentaires. Donc je trouve ça une super nouvelle parce que ça leur permet à la fois eux de l'expérimenter et nous aussi, enfin pour les managers, d'apprendre aussi à vivre, je dirais,
sans
à
eux.
Distance. Non, on vit pas sans eux, on vit à distance, c'est très différent. Voilà,
on
donc c'est
tous les outils qui
c'est plutôt un bon prétexte.
Grâce à Internet qui permettent de se voir, de se...
Et on a les outils pour ça,
oui. Oui, encore faut-il que les salariés aient les outils. Puisque cette augmentation, elle a notamment été très faible, voire même une petite diminution, même si l'intensité a augmenté, parce que la plupart des salariés, de fait, n'ont pas des outils qui leur permettent de se mettre en situation de télétravail. Ils n'ont pas une imprimante à la maison, ils n'ont pas nécessairement un ordinateur portable, ils n'ont pas tout ce qui peut faire les conditions d'un télétravail qui est un télétravail optimal.
Stan Leloup, vous pensez que vous faites partie de cette génération, vous avez 29 ans, c'est ça ?
28.
28 ans, je vais vous dire. Vous avez 28 ans, c'est une génération qui s'intéresse de près à ce mode de vie. Et vous l'avez prouvé vous-même, puisque vous en parlez tout à l'heure. Je rappelle votre livre, Votre Empire, dans votre sac à dos. Vous vivez aujourd'hui en Thaïlande, vous êtes mobile. Les outils permettent aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, de le faire.
Exactement.
De travailler à distance.
Alors, en fait, c'est incroyable.
Ça dépend des métiers.
Le mode de vie que j'ai aujourd'hui était infaisable il y a seulement 10-15 ans. En fait,
oui, vous avez raison, bien sûr.
Pas là. C'est-à-dire que c'était totalement impossible de le faire, d'avoir ce niveau de collaboration. Et d'ailleurs, les premières personnes à avoir vécu à l'étranger comme ça, c'était les joueurs de poker. Parce que le poker sur Internet, c'était la première manière dont vous pouvez gagner votre vie sans parler à personne. Évidemment, aujourd'hui, vidéo YouTube ou pas vidéo YouTube, il faut parler aux gens, il faut avoir ces outils, il faut pouvoir avoir des applications de chat, il faut pouvoir avoir des appels. Ça reste un élément qui est important, qui permet de remplacer le bureau. Il faut qu'on puisse quand même avoir cet esprit d'équipe. Et je sais, anecdotiquement, que les gens rêvent beaucoup de ce mode de vie, de pouvoir voyager, d'aller n'importe où, et de pouvoir justement séparer ce revenu, parce que vous dire, je peux aller quelque part et travailler autre part, et faire un petit peu mes choix à ce niveau-là, expérimenter différentes choses, et puis pouvoir voyager pendant plus longtemps, parce que vous n'avez pas... vous pouvez continuer à gagner votre vie et à travailler pendant ce temps-là.
Alors vous restez avec nous, il ne reste plus qu'à vous présenter la start-up qui cartonne et qui recrute. Elle s'appelle Utip, son fondateur est avec nous. Vous allez découvrir cette start-up qui veut rendre justice aux créateurs de contenu sur Internet. Ça tombe bien, on adore ça. Voici la start-up qui a besoin de vous.
BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour Adrien Mignot.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer. Alors, on dit Utip, pas Utype, hein, Utip.
On dit Utip, oui.
Ça s'écrit, voilà, ça s'écrit U-T-I-P.
Exactement.
Je fais très attention à l'orthographe. Merci d'être avec nous. Alors, vous, on va essayer de vous donner un coup de pouce, un coup de main. On dit toujours donner un coup de pouce à une jeune pouce. C'est aussi dans notre rôle et vous aider peut-être à recruter votre futur collaborateur. Alors, on va parler un petit peu de vous, date de création de votre société. D'abord, le métier. Je disais, une société, une plateforme créée en 2010.
Oui.
Voilà la date de création.
La société a créé en 2017, la plateforme existe depuis une grosse année.
D'accord. Expliquez-nous l'histoire.
Alors, l'histoire, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme d'injustice qui touche les créateurs de contenu en ligne.
Donc, c'est quoi un créateur de contenu en ligne ?
Alors,
donnez-moi des exemples.
Alors, c'est des vidéastes comme Stan, c'est des gens qui font, c'est des gens qui écrivent, c'est des gens qui dessinent bien et publient leurs dessins sur Instagram ou sur d'autres plateformes.
Oui.
C'est des gens qui qui créent des podcasteurs, par exemple, aussi.
C'est pas forcément des artistes, mais quand même, quelque part, ça en est.
Oui, c'est une démarche artistique, la création de contenu. Donc, c'est des gens qui créent du contenu qui réunit une communauté sur une plateforme, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram ou n'importe laquelle. Et ces plateformes-là, elles ont un commun dénominateur, c'est qu'elles n'ont pas trop de problèmes à vous amener de l'audience, mais quand il s'agit de vous aider à trouver un modèle économique, c'est là où ça se corse. Par exemple, nous, on ne comprend pas pourquoi un écrivain qui a 15 000 lecteurs hebdomadaires sur une plateforme d'écriture qui s'appelle Wattpad, pourquoi il gagne pas la même chose qu'un écrivain qui vend 15 000 romans, qui est un énorme succès de librairie dans le monde physique. Donc on cherche à réduire un petit peu l'inefficience qu'il y a là, grâce à une plateforme où on peut suivre tout le contenu de ses créateurs favoris et où on a tous les moyens de les soutenir.
C'est ça la création de contenu, et c'est les aider à. Alors aujourd'hui, date de création, je disais, on a vu l'affiche, 2017, 14 collaborateurs, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes installé où, à Paris ?
Oui, on est installé à Paris.
Non, c'est pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous avez fait ça.
Oui, alors...
Non, c'est les fonds levés, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait une erreur.
C'est parce que le chiffre d'affaires, théoriquement, on ne le communique pas. Il se trouve que ce n'est pas si loin que ça. Mais voilà.
Mais vous avez levé 1 million de fonds, c'est récent ?
On a levé 1 million l'an dernier, 300 000 euros l'année d'avant.
D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, où êtes-vous installé ?
À Paris, et on a deux collaborateurs en télétravail à 100%.
Ah ben alors voilà.
Un à Toulouse et une en Normandie.
Et vous souhaitez recruter 5 nouvelles personnes.
Exactement.
Qui recherchez-vous ? Comment peut-on vous aider ?
Alors, pour l'instant, on cherche 3 profils de développeurs, donc des personnes qui fassent du développement informatique dans les langages...
Les concurrents de Scalia.
On en a quelques-uns, oui.
Voilà, donc on va peut-être essayer d'en débaucher, hein. c'est le jeu. Hein.
Et vice-versa.
Vous avez dit tout à l'heure qu'ils vous choisissent, des fois ils nous choisissent aussi. Bon, enfin, nous...
Il y a de la place pour tout le monde.
Oui, c'est un secteur où en ce moment on est assez proche du plein emploi, hein, sur les développeurs informatiques.
Alors,
donc, 3 développeurs informatiques, oui. Une personne qui fait de l'UX UI design, donc un designer d'expérience utilisateur. Donc c'est quelqu'un qui s'attache au parcours des utilisateurs sur le site et qui dessine toutes les interfaces qu'on a vu défiler.
D'accord.
Et une autre personne qu'on appelle des Creator Success Managers, c'est des gens qui sont au contact des créateurs, donc qui pourraient discuter avec Stan au quotidien pour s'assurer qu'il a une bonne expérience sur la plateforme, pour répondre à ses questions, etc.
Alors, ils doivent avoir de l'expérience, tous ces hommes et ces femmes que vous recherchez ?
Eh bien, pas forcément.
Vous les avez décrits. Ils doivent nous regarder ou nous écouter sur BFM Business Radio, BFM Business TV aujourd'hui. Et je répète, je suis sûr qu'ils sont nombreux. Ils se reconnaissent, là. Mais ils sont ingénieurs de formation, tous ces...
Alors, pour les développeurs, on a des ingénieurs de formation. On a aussi des personnes en reconversion. C'est une grande tendance de fond dans le développement informatique.
Oui.
Et pour les deux autres jobs, UX, UI designer, c'est vraiment une formation spécifique. Mais on peut très bien embaucher en sortie d'école. Et pour des créateurs success manager, ça c'est un job qui n'existe pas trop, hein. c'est plutôt de la relation client appliquée à notre contexte à nous. C'est pareil, ça peut très bien être un job.
Stan Leloup, qui je rappelle vit en Thaïlande, il va peut-être vous trouver des gens en Thaïlande.
Peut-être, hein, on est assez ouvert au télétravail.
Au télétravail, justement.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux que vous souhaitez attirer ? Éternelle question dans cette émission. Quels sont les plus que vous avez à proposer ? Quelles sont les valeurs qu'il faut partager ? Est-ce que vous attendez quelque chose au-delà des compétences ? Est-ce que vous attendez quelque chose de la part de ceux que vous souhaitez attirer ?
Alors oui, ce qui est très important, c'est d'adhérer au projet.
Que
si la création de contenu sur Internet, ça ne vous parle pas du tout, il est assez peu probable que vous soyez extrêmement heureux au quotidien en travaillant sur une plateforme où on parle de ça, grosso modo, toute la journée. Donc il faut adhérer au projet, il faut que ce soit un domaine qui vous intéresse. Et après, c'est plutôt notre job à nous de créer un climat où en fait on s'intéresse pas seulement à vos compétences en tant que développeur, mais aussi à vous en tant que personne, ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et on essaye de faire matcher les deux, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal.
Alors, ce que vous attendez d'eux ?
Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient bons dans leur travail.
Oui, la compétence.
Oui,
mais vous faites miroiter quoi ? Vous dites, venez chez nous, il y a un projet, venez chez nous.
Oui, c'est un projet. C'est sûr, il y a le côté start-up.
Vous allez devenir chef très vite, vous allez avoir des galons.
Ouais, alors oui, il y a le côté start-up où on peut effectivement, peut-être qu'on sera 150 d'ici 2 ans et où les gens qui sont rentrés aujourd'hui auront forcément des positions managériales ou pas, parce que le management, il faut que ça vous intéresse pour que vous mettez dans une position managériale. Il y a tous ces côtés-là. Alors nous, on rentre pas du tout dans les trucs des startups où on offre les vacances illimitées, où je vous offre des vacances illimitées, mais vous pouvez en prendre que 5 semaines par an. Nous, on est juste correct et bienveillant envers nos collaborateurs. Ce qu'on attend d'eux en retour, c'est qu'ils évoluent. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à un niveau A, on le voit progresser jusqu'à un niveau B ou C. Donc on a des développeurs qui arrivent, nous on a deux technologies qui sont Symfony et Vue.js. On a des développeurs qui arrivent, ils sont très bons en Symfony, ils connaissent pas Vue.js, ben on va leur demander d'évoluer.
Moi je connais aucun des deux. Bon, alors je vous mets
oui.
Symfony, mais... c'est quoi Symfony? C'est Beethoven.
Symfony, c'est un
c'est Bach, c'est
du Bach. Voilà, c'est un framework de PHP, qui est un langage assez ancien, mais très connu et très bien maintenu. Voilà. Et Vue.js, c'est un framework de JavaScript.
Bon, ben j'en apprends des choses. Voilà. En tout cas, je le répète, et c'est souvent, on me signale, on me dit, mais ne sois pas surpris, toi, t'es pas forcément obligé de connaître tout, mais là, ils se reconnaissent. Ils
normalement, savent... oui, là, Symfony Vue.js, ça doit frapper, là.
Est-ce que ces postes sont à pourvoir immédiatement, me demande-t-on?
Ces postes sont à pourvoir immédiatement, et après, il y aura 2 à 3 recrutements par mois jusqu'à la fin de l'année.
D'accord. Et est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? Vous avez parlé de levée de fonds.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui vous embauchez, parce que 5 personnes, il faut les payer quand même tout de suite?
C'est mieux.
Et puis c'est des salaires importants quand même. C'est pas.
Oui, c'est pas des petits salaires.
C'est pas des petits salaires.
Surtout les développeurs maintenant, vous devez savoir. Oui.
Avec la guerre qui se joue, les entreprises.
Ils sont bien payés, ils ont bien raison, parce qu'ils ont une compétence qui est cardinale dans notre économie. Oui, on a évidemment les moyens de nos ambitions. D'accord. Sinon, on ne recruterait pas.
Voilà.
Par contre, le discours qu'on a avec l'ensemble d'entre eux, c'est que ça vient avec le côté start-up, c'est que ça peut aussi s'arrêter dans quelques temps, parce que c'est le côté d'essayer d'aller taper très haut, très vite. Mais ça, on le dit à tous, et ça fait partie du deal d'entrée.
En tout cas, trouver une idée de business, c'est ce que propose dans son livre « Votre empire dans votre sac à dos, développer la psychologie humaine ». Pour trouver une idée de business, vendre sur Internet, gagner votre vie depuis votre ordinateur. Je rappelle que c'est notre invité, voilà, c'est la fin de l'émission. Notre invité, Stan Leloup. Merci, vous repartez à Bangkok.
Merci.
Je vous le recommande chez Erol. Merci à vous, merci à vous toutes. À vous et à vous tous, pardon, d'avoir eu la gentillesse de venir jusque vers nous. Voilà, vous avez entre les mains votre avenir, c'est simple. Vous pouvez décrocher un job, vous avez 2 entreprises, une grande, une petite. Allez-y, et rendez-vous le week-end prochain. Bonne chance.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.